Emna, merci Emna de nous permettre de continuer à voyager. Oui. En fin de compte, on est un peu ce Sindabed de Fatima Mernissi qui, sur son tapis volant, est en train de survoler avec Azadeh tout d'abord et avec Emna ensuite. Donc de survoler, et c'est extraordinaire parce que c'est la fierté d'être femme, mais c'est aussi une manière de nous permettre de reconstruire la société, parce qu'on ne peut pas la reconstruire sans justement ces racines-là. Et le voyage va continuer.
J'espère.
Et là, cette voyage, c'est un voyage quand même qui va prendre un peu une dimension virtuelle sur la toile, avec Nassira Ghenif Souley. Alors, Souilamas, est-ce que je prononce le S ou non ? Souilamas. Alors, Nassira Ghenif Souilamas. Nassira est sociologue, anthropologue. Elle est à l'Université Paris 8. Nassira a beaucoup d'ouvrages. Mais bon, je suis attirée par ceux qui sont épuisés. Pourquoi épuisés ? Il va falloir penser à les rééditer. Ça aussi, c'est l'école Fatima. Alors, la République mise à nu par son immigration. Et aussi, les féministes et le garçon arabe. Bon, ça, peut-être, c'est l'idée d'une autre rencontre. OK, alors, tout de suite, tu as la parole, Nassira.
De m'accueillir ici et merci à Fatiha de m'avoir proposé il y a déjà quelques mois d'apporter ma modeste contribution à une réflexion autour de Fatima Mernissi. Et alors je le fais avec d'autant plus d'humilité que je ne l'ai pas connue, que je l'ai lue tardivement et que au fond ce qui m'a toujours fascinée chez elle, c'était pas tant alors c'était ses travaux certes, mais c'était la façon dont ils étaient reçus et dont ils étaient incorporés dans un débat qui a toujours visé, d'une certaine manière, à vider ces travaux de leur sens pour leur attribuer un autre sens. Et il me semble qu'un des lieux où on comprend le mieux à quel point est-ce qu'il y a eu une logique d'évidement, d'appauvrissement et de réification pour aller dans le sens de l'essentialisation, en fait, d'une certaine manière, Fatima Mernissi a toujours été reprise par l'essentialisation, alors même qu'elle n'a pas cessé de la contester. Et un des lieux idéaux pour faire ça, en fait, c'est le monde virtuel. Alors, il m'a semblé que pour compléter cette image, et surtout pour comprendre en quoi est-ce que la virtualité aujourd'hui est un lieu de dépolitisation, parler du politique et du pouvoir, c'est d'autant plus important aujourd'hui qu'un des lieux de pouvoir les plus actifs, c'est précisément les réseaux sociaux, la façon dont on peut parfois réduire à sa plus simple expression toute une vie de réflexion, de lutte et de redéploiement de la pensée. Eh bien, en fait, donc je me suis attachée, y compris parce que j'étais pas en France au moment jusque récemment, et en fait j'étais dans un endroit qui explique peut-être mon bronzage illusoire, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec la pensée de Fatima Mernissi, quoique ce serait intéressant d'admettre, et c'est une des manières de penser du lieu où j'ai été ces deux derniers mois, c'est la pensée archipélique, en fait. C'est l'archipélique qui s'appuie sur la forme des archipels, c'est-à-dire qui passe d'un endroit, qui circule et qui passe son temps, en fait, à échapper à toute forme de catégorisation. En fait, j'étais en Kanaky, Nouvelle-Calédonie, jusque la semaine dernière. Donc, voilà. Pour des raisons liées à l'histoire de ce pays, qui est aussi une histoire de la décolonisation. Et donc, cette pensée archipélique, d'une certaine manière, il me semble qu'elle résonne assez bien dans tout ce qui vient d'être évoqué au cours de cette matinée de ce qu'a été Fatima Mernissi et de ce qu'elle a tenté et de ce qu'elle a réussi, hein, dans une large mesure, à imposer à la pensée occidentale, au pouvoir occidental de la fabrication des savoirs. Je pense que c'est aussi cette dimension-là, peut-être, qui est importante à souligner. Et c'est précisément tout ce qui disparaît, en fait, dans la présence virtuelle de Fatima Mernissi. C'est-à-dire que lorsqu'on s'intéresse au site où elle est présente, où elle est citée, la politique des citations, par exemple, en ligne, qui lui est consacrée, est une politique qui vise, d'une certaine manière, à la présenter comme une penseuse d'un monde relativement enchanté et qui, à chaque fois, dépolitise, vide de son sens tout ce qu'elle a proposé par ailleurs. Donc, il y a un appauvrissement de sa pensée qui passe aujourd'hui par le monde virtuel et qui vise à la rendre consensuelle. Ce qui m'a beaucoup frappée dans ce que j'ai pu observer à travers les sites, c'est une façon d'en faire une figure qui, à travers sa dépolitisation, devient acceptable pour le plus grand nombre. Et je voudrais insister sur un point dont nous savons à quel point il est aujourd'hui particulièrement exploité. C'est le fait, qui n'a peut-être pas été évoqué, mais qui, moi, me frappe, c'est que Fatima Mernissi était une femme belle. Et ça se retourne toujours contre les femmes. Donc, je suis désolée de le dire comme ça, mais je pense que on a pu en faire l'expérience individuellement et collectivement. La beauté est une arme redoutable. Et en fait, il y a une façon de faire passer au premier plan son image pour faire disparaître aussi ce qu'elle a pu être amenée à dire de particulièrement désagréable à toutes celles et ceux, vous l'évoquiez tout à l'heure. Hein, je veux dire, elle n'a négligé aucun front, elle n'a jamais renoncé à aucune forme d'interpellation. Et il me semble qu'il y a une façon, notamment dans le monde virtuel, d'aplanir ses aspérités, de faire disparaître tout ce qu'elle a, toutes les gênes et tous les agacements, voire toutes les irritations ou les résistances qu'elle a pu susciter, en faisant passer au premier plan cette image lisse d'une femme belle qui a traversé les âges sans altération. En s'enrichissant en quelque sorte de l'âge, des âges qui devenaient les siens de décennie en décennie. Et ça me semble être une leçon pour nous, d'une certaine manière, c'est-à-dire comment est-ce qu'il s'agit de résister à ce que le monde virtuel et le monde de la communication en général, puisque c'est de cela qu'il s'agit, comment est-ce que ces mondes-là parviennent à transformer une penseuse qui est particulièrement radicale, à bien des égards, une penseuse qui ne renonce pas à être particulièrement tranchante dans ses approches et dans ce qu'elle propose en termes analytiques et en termes y compris empiriques. Vous l'avez bien rappelé tout à l'heure avec cette façon de faire du terrain qui pouvait particulièrement déranger, notamment au Maroc, mais pas seulement. Et c'est tout cela, d'une certaine manière, est comme édulcoré, comme euphémisée à travers aujourd'hui la posture consensuelle qui cherche à la coopter et réduire en quelque sorte la portée politique et la portée subversive de sa pensée. Donc je voulais insister sur ce point, je ne vais pas être tellement plus longue. En fait, ce que je voulais, c'était apporter un contrepoint par rapport à ce que vous avez évoqué et peut-être insister sur une dimension que nous connaissons bien aussi, c'est que le monde virtuel a une puissance de diffusion et d'accaparement qui peut parfois aussi prendre le pas et réduire, à sa plus simple expression, une pensée foisonnante et qui n'a pas cessé de se renouveler au fil du temps, en sachant que pour beaucoup de personnes aujourd'hui, connaître Fatima Mernissi, c'est aller sur le net et voir ce qui reste finalement de sa pensée, qu'est-ce qu'il faut en retenir. Comme si, au fond, en retenir quelque chose, ça pouvait passer par les logiques de cadrage, de formatage, aussi d'appauvrissement dû au format. Hein. Je veux dire, quand vous voyez les citations, effectivement, elles font 140 signes, donc tout va bien. Elles sont faciles à retenir, elles sont faciles à transmettre, elles peuvent finir sur des fils Twitter. Non, mais je... Et tout ça, c'est autant de manières de réduire à néant tout ce qu'elle a fait tout au long de sa vie. Donc je voudrais insister sur ce point-là et surtout sur le fait que, d'une certaine manière, c'est aussi ce qui empêche que Fatima Mernissi trouve toute sa place. Toute sa place dans le débat public, avec les contradictions et les tensions que vous avez évoquées. Je veux dire, est-ce qu'elle est féministe? Est-ce qu'elle est féministe islamiste ou islamique ou musulmane ou que sais-je encore? Que fait-on effectivement de son histoire de femme qui est née dans un milieu bourgeois, dans un milieu lettré, même si elle disait que sa mère était illettrée? On sait très bien que l'illettrisme est une notion très relative. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on nous impose. Hein. Nos parents étaient illettrés. Oui, ma mère aussi était illettrée, d'ailleurs, sans doute, hein, à cette aune-là. Sauf qu'elle avait une autre histoire à raconter sur le fait qu'elle n'écrivait pas en français. Oui, c'est pas parce qu'on n'écrit pas en français qu'on est illettré. Toutes ces dimensions-là qui visent, qui souvent vont être soit éludées. On ne va pas dire en quoi est-ce que Fatima Mernissi s'est beaucoup intéressée aux bonnes, parce qu'elle elle les a aussi côtoyées dans sa vie personnelle. Et que c'est parce qu'elle les a côtoyées, parce qu'elle a elle-même éprouvé ce rapport de domination, qu'elle a voulu en rendre raison et en faire quelque chose dans ses travaux. Donc ce que nous connaissons par ailleurs dans les épistémologies situées, c'est-à-dire le fait que nous ne pouvons pas faire abstraction de ce que nous sommes, de ce que nous avons été, et de la façon dont nos propres savoirs ont parfois été façonnés par un monde occidentalo-centré, alors andro-centré, hein, clairement masculino-centré. Et c'est sans doute ce qui nous permet de comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que Fatima Mernissi n'est pas dans les bibliographies des sciences sociales en France, par exemple. Je me refaisais la réflexion quand j'entendais Azadeh parler de sa propre expérience de rencontre avec Fatima Mernissi. Moi, je ne l'ai pas rencontrée à l'université en France. Du tout, hein. Non, c'était aux États-Unis, bien sûr. Et en France, jusqu'à aujourd'hui, alors, nous avons toujours, alors, particulièrement en sociologie, peut-être un peu moins en anthropologie, quoique, nos bibliographies ont toujours été composées d'auteurs hommes blancs. C'était eux que j'ai dû lire encore et toujours avec nos grandes figures tutélaires qui continuent à projeter leur ombre sur nos existences et sur nos réflexions et dont il faut constamment se défaire d'ailleurs. C'est-à-dire toute l'énergie qu'on met à mettre à distance un certain nombre d'auteurs, c'est une énergie qu'on ne met pas à mettre en avant des penseuses comme Fatima Mernissi et comme tout ce qu'elle a pu apporter ailleurs qu'en France. D'ailleurs, c'est pas étonnant qu'elle ait à un moment donné pris la tangente, pour le dire comme ça, et qu'elle soit partie aux États-Unis. C'est sans doute parce qu'en France, elle n'avait pas d'espace possible d'expression. Alors, je pense que je suis arrivée à la fac après son passage en France, et clairement, si c'est les mêmes bibliographies que nous avons connues, ça devait être complètement... débilitant, quoi. Je veux dire, il fallait lutter contre la pensée des grands hommes blancs. Et pendant très longtemps, la lutte était impossible. Il faut le dire quand même. Hein. Je veux dire, jusque dans nos thèses, il a fallu continuer à citer ces hommes-là. Donc c'est aussi cela, d'une certaine manière, ces espèces de pôles qui se répondent. D'un côté, un monde académique français qui est un monde qui continue à jouer. Les Cerbères, c'est-à-dire à décider qui a le droit d'entrer dans la norme académique et donc dans la référence qui va être citée et qui va devenir en quelque sorte légitime. Donc il y a bien une forme d'illégitimité qui continue à frapper la pensée de Fatima Mernissi dans le contexte français et vient répondre à ce milieu académique qui est ô combien jaloux de sa scientificité et de son universalisme, qui évidemment le rend asexué. Hein. On aura bien compris que le miracle de la pensée universelle française, c'est qu'elle est asexuée. Et que donc on ne peut jamais accuser les penseurs français, sociologues inclus, d'être sexistes, hein, puisqu'ils se situent au-dessus de la mêlée, là, ils sont en surplomb. Et donc, ils n'ont jamais eu, sans aucun doute, aucune mauvaise intention à l'égard de Fatima Mernissi, comme ils n'en ont aucune à l'égard de toutes les femmes penseuses qui, aujourd'hui, peuplent le monde de l'université en France. Et à ce monde qui est en surplomb, qui est en apesanteur, qui est, en quelque sorte, hors de la réalité, répond, et c'est en cela que je pense intéressant d'aller voir ce qui se passe sur le net, le monde virtuel. Au fond, ce sont deux virtualités qui dialoguent. Vous avez d'un côté ces hommes qui sont désincarnés, désexués, et qui continuent à penser qu'ils ont une pensée universelle, précisément parce qu'ils parviennent à surmonter toutes leurs attaches, y compris sexuées. Et de l'autre, un monde virtuel qui, lui, s'est d'emblée affranchi de toutes les formes d'attachement et qui recycle tout ce qui est, à un moment donné, alimenté, hein, tout ce dont il se nourrit, et qui fait que Fatima Mernissi est d'abord perçue comme une belle femme qui aurait peut-être une pensée, mais une pensée qui est souvent réduite à des citations, à une forme d'inspiration. Si encore c'était pour en faire une sorcière, ce serait bien, mais c'est même pas ça. Enfin, si elle avait cette charge-là, qui. Mais je crains que si on ne on fait pas le travail de montrer à quel point est-ce que sa pensée est subversive et qu'il y a une dimension profondément rugueuse qui résiste en quelque sorte à la récupération et à la cooptation, je crains que le net n'ait un jour complètement raison de sa pensée et que pour des étudiantes et des étudiants qui sont souvent encouragés à ne pas aller voir dans les textes originaux, nous ne parvenions pas à faire le travail qui est le nôtre, c'est-à-dire à maintenir vivante et ardente la pensée de Fatima Mernissi. Donc il me semble que sur ces deux fronts-là, qui semblent être étrangers mais qui au fond se répondent, sur le front universitaire comme sur le front de la mise en forme virtuelle des pensées, et donc de leur réduction dans les deux sens, et de leur désactivation, il me semble que nous avons un beau programme devant nous qui est celui de l'extirper à la fois de sa mise en virtualité et de l'extirper de sa réduction au silence qui est encore très forte en France. Je vous remercie.
Merci Nassir. Généralement, quand on fait un beau et long voyage, on peut avoir des difficultés à l'atterrissage et des secousses, mais ce sont des secousses bénéfiques. Bénéfique. Donc merci parce que tu as soulevé une question très importante à propos de la visibilité. Ce thème si chéri par Fatima Mernissi, elle a toujours cherché à rendre visibles les femmes, mais tu nous as aussi alerté contre justement les problèmes que pose cette visibilité à l'heure que nous sommes. Est-ce que nous avons à faire pour que justement cette visibilité ne soit pas complètement récupéré dans le sens qui dessert le féminisme. Donc merci beaucoup. Sans plus tarder, je donne la parole à Inga Brandel. Inga Brandel qui est politologue. Inga Brandel qui est... Moi, je ne sais pas. Je vois Inga comme faisant partie du mouvement féministe maghrébin. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'elle a été avec nous à toutes les dates importantes. Donc, voilà. Et elle est aujourd'hui avec nous parce qu'aujourd'hui, c'est un jour important. Voilà. Merci, Inga, d'être là.
Merci. Et merci de d'avoir voulu, Fatira, me proposer de faire des commentaires... toute impréparée que je suis. J'ai une très chère amie ici qui va intervenir plus tard. Alors j'ai dit que je vais commenter. Alors elle a dit, mais tant pis, qu'est-ce qu'il a à voir? Oui, effectivement, mon pis, qu'est-ce qu'il a à voir? J'ai rencontré Fatima Mernissi et d'une certaine manière Rachida Ennaïfer en même temps, au milieu des années 80. J'avais déjà lu certains ouvrages de Fatima, et j'ai lu plus, j'ai écrit exactement au moment où Rachida avait été à la tête, ou était à la tête du syndicat des journalistes en Tunisie. Il y avait un moment de dégel en Tunisie, elle était en Allemagne, elle a été interviewée par un grand journal suédois, et on a eu les deux articles, l'interview de Rachida dans l'action, quelqu'un dans l'action, et mon article sur Fatima Mernissi, qui représentait pour moi une possibilité d'introduire effectivement quelqu'un qui avait quelque chose à apporter dans mon contexte scandinave, nordique, avec tous les préjugés qui existaient à l'époque. Je vais essayer quand même de commenter un petit peu sur ce que vous avez dit. Je crois que j'ai un commentaire pour chacune des trois. Il me semble que ce qu'on a entendu, écouter les trois intervenantes ce matin, démontre ce qui avait été dit dans la première session sur l'imaginaire féministe. C'est-à-dire que Fatima Mernissi a ouvert un chemin, une porte, pour que cet imaginaire féministe puisse se développer dans beaucoup de sens. Bon, elle n'est pas la seule, mais c'est vrai que son œuvre ouvre tant de chemins dans différentes directions et que vous, de différentes manières, vous êtes les héritières en poursuivant le travail. J'aimerais bien qu'on revienne à cette question. Bon, il y a le risque que Nassira nous a expliqué de la consensualisation, de l'appauvrissement, mais d'une certaine manière, c'est quelque chose qui arrive à pratiquement tous les grands scientifiques en sciences sociales et humaines, hommes ou femmes, après leur décès. Il y a un espèce d'accord général sur Derrida, Deleuze, enfin beaucoup de gens. Et on chope des citations pour se référer à « oui, moi j'ai lu tout ça et je suis dans la ligne de Derrida ou de Fatima Bernissi et c'est un peu pareil ». Donc, à mon avis, il n'y a que par les travaux qui continuent, il n'y a que les nouveaux travaux sur d'autres sujets, sur des champs nouveaux, dans les contextes nouveaux que nous avons et que vous allez poursuivre et qui peuvent être inspirés ou se baser sur certains des écrits de Fatima, qui pourront redonner cette radicalité et ces ruptures. Parce qu'une fois que l'œuvre est close, bon, cette tendance, elle est forte. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Il y a eu aussi ce matin, on a parlé beaucoup de l'interdisciplinarité. Il me semble qu'il y a un filon. Madame nous a parlé de la première enquête de Fatima. C'était les années 1960. Bourdieu a fait son travail sur les travails et travailleurs en Algérie, etc. C'était le travail du terrain. La méthode sociologique apprend les statistiques, enfin toutes ces choses-là. Donc, c'est peut-être par là qu'elle a commencé et que ce n'est que en commençant par là, qu'après, effectivement, on peut ouvrir d'autres portes et éventuellement cette idée du grand roman que nous voudrions tous écrire avant notre décès, n'est-ce pas? Bon, donc la méthode, le réel, le vrai, peut-être, ou par où il faut commencer, ça c'est aussi, d'une certaine manière, une question à vous toutes. Alors, Azadeh, j'ai compris que ce que tu nous as expliqué, c'était la mise en cause, la contestation, la critique des catégories essentialistes dans la pensée qu'elle critiquait, qui était important pour Fatima. Mais tu nous as aussi dit qu'elle, elle-même, avait des catégories essentialistes. Et j'aimerais bien que tu développes un petit peu comment tu comprends ça. Emna, j'ai été ravie de voir cette suite des travaux de Fatima. En même temps, je me suis révoltée. Catherine de Médicis, Isabella Fernando, les histoires que Machiavel raconte sur la dame Sforza là, qui sacrifie tous ses enfants pour défendre son château. Bon, il y a des contextes différents. Peut-être que dans le contexte maghrébin, ça fait sens, mais dans le contexte européen, ça ne fait pas sens de dire que nous sommes tous les victimes de la loi romaine, hein? Et oui. Alors, ce qui est resté un petit peu à l'écart, c'est la question du pouvoir. Il y a eu beaucoup de mentions de femmes au pouvoir, mais comment, quel est le rapport au pouvoir des femmes? Qu'est-ce qu'elles font? Alors, Nassira, y a-t-il des femmes dans la pensée archi pédique? Y a-t-il des femmes? Serait-ce différent? Est-ce qu'il faut que nous tendons tous vers la pensée archipédique? Ou est-ce que le genre joue même là? Merci.
Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle.
Moi, sur ta question sur le pouvoir, je voulais faire le lien avec ce que disait Meliam Yafout ce matin. J'ai trouvé intéressant quand Rachida lui a demandé de définir le féminisme islamique et qu'en fait elle a parlé de ces femmes qui cherchaient dans l'islam, qui interprétaient ça comme l'égalité. Enfin, c'était pas que l'islam a été récupéré par les pouvoirs, par le pouvoir politique. Et c'est intéressant parce qu'elle parlait de pouvoir politique, elle ne parlait pas de pouvoir sur les femmes. Donc c'était, en fait, les féministes islamiques cherchaient dans le message religieux, le message du prophète, des arguments pour refuser le pouvoir politique, le pouvoir, pas le pouvoir forcément patriarcal. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé intéressant pour lier avec la session d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions?
Il y a quand même un jeune parmi nous. J'aurais aimé l'écouter.
Ah, le jeune homme.
Oui. Un jeune homme. Oui. Elle aussi, elle est jeune. Une jeune et un jeune.
Bonjour à toutes. Du coup, moi, c'était pas vraiment... Enfin, c'est une question à la voix... Enfin, une remarque, quelque chose que je constate. Vous parliez justement des contenus, enfin, sur le web. Est-ce que vous avez déjà posé la question, justement, qui écrivait ces contenus? Est-ce que ça avait un impact sur... Est-ce que, justement, vu que c'est des hommes, ça a un impact aussi sur la façon dont ils écrivent les contenus sur, du coup, sur Madame Bernessi ou sur d'autres choses? Parce que, en fait, nous, on est, du coup, étudiantes en communication numérique à Paris 8, donc ça tombe parfaitement dans ce que vous disiez. Donc, hein? Oui.
Oui, moi j'ai une toute petite question à propos de ça. La fameuse exposition sur le harem, je ne l'ai pas vue en fait, qui était, je crois que c'était au musée à Lyon. Vous n'avez pas entendu parler.
Il y a longtemps.
Si. Qui était, elle a coordonné, enfin je ne sais pas. Et j'aimerais savoir ce que ça a donné parce que justement, je me rappelle qu'on s'était fait la réflexion avec Nassima qui avait. Enfin, est-ce qu'elle contribue elle-même à cette récupération des fois où elle collaborait un petit peu, entre guillemets? Parce que dans la présentation, et notamment, je crois que c'était dans l'affiche, il y avait une image très orientaliste, justement, du harem. Et je voulais savoir ce que ça donnait au niveau de l'exposition elle-même, s'il y avait une critique de cette image orientaliste ou si c'était vraiment aussi une opération un peu de marketing, pas forcément, enfin, je ne sais pas, voulu par elle, mais en tout cas, que ça devenait en fait une opération un peu de marketing pour attirer le public, quoi.
Bonjour, alors, moi, ce n'est pas une question, mais c'est une petite réflexion que m'a inspiré le thème de la session, le pouvoir, le politique et les femmes. C'est quel rapport avait Mernissi en tant que femme féministe avec le pouvoir politique marocain, et je pense que ce n'était pas un rapport paisible, c'était plutôt un rapport tendu, non seulement à cause de l'interdiction de son livre Le Harem politique en 1987. C'est une femme qui, malgré la dimension internationale que sa pensée a eue, n'a jamais été honorée officiellement au Maroc, n'a jamais été décorée, alors qu'il y avait des intellectuels qui ont écrit un seul livre, des écrivains plutôt, qui ont écrit un seul livre qui ne valent pas, dont la pensée ne vaut pas le 1/100 de Mernissi, qui ont été plusieurs fois félicités et décorés. Je pense que sa pensée dérangeait beaucoup. Elle dérangeait beaucoup parce qu'elle n'a pas arrêté de critiquer l'autocratie, elle n'a pas arrêté de critiquer le machisme, la manipulation des textes religieux, l'hégémonie occidentale, et tout ça, ça dérange beaucoup.
Oui.
Bonjour, je m'appelle Benjamin Dubrulle, je suis doctorant à EHESS et j'étudie les courants de le féminisme islamique en Europe, et la place des minorités sexuelles aussi dans ces courants et dans ces sociabilités, notamment en France et au Royaume-Uni. Merci de me donner la parole. Enfin, c'est très intéressant. Je suis ravi d'être venu. Je voulais dire aussi par rapport à ce que Nassira disait sur la réduction de la pensée sur Internet. Il y avait aussi un papier très intéressant, je crois que c'est sur slat.fr, concernant la figure de Frida Kahlo, qui subit le même processus, en fait, où elle est complètement détachée, déconnectée de son œuvre. Et on a tendance à adoucir ses traits lorsqu'on la représente. Et il y a aussi un but commercial, un but marchand, qui est de commercialiser la figure de Frida Kahlo et de la connecter, de la déconnecter d'une œuvre où il y avait toute une réflexion sur le corps, sur la douleur, sur la solitude, et juste pour la rendre plus glamour, finalement. Donc c'est, oui, c'est un processus que beaucoup de femmes qui ont vraiment une pensée extrêmement complexe subissent, finalement, sur Internet. Voilà, merci.
Une info politique insolite concernant Fatema Mernissi. Nous, on le suivait en tant que groupe du journal 8 mars depuis des années. Donc, il nous a accompagnés aussi dans nos travaux, notre réflexion et nos combats. Et moi, à l'époque, j'étais la Benjamine de la rédaction du journal 8 mars en 1982. J'avais 21 ans. Et par un ami qui était à l'époque membre d'Amnesty International à Londres. Il est aujourd'hui l'adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Il s'appelle Jamel Dilmel Omar. Il est très connu. Donc, ce militant était détenu politique avec un de mes frères. Et puis, il a quitté le Maroc. Il s'est exilé. Il est resté très, très longtemps jusqu'à... Il a eu un poste à l'international. Donc, là, il revient au Maroc. Il m'envoie une chercheure anthropologue iranienne. Vous devez la connaître, c'est Zib Amir Husseini. Ouais. Alors, elle vient chez moi. À l'époque, il n'y avait pas de relations politiques, diplomatiques entre le Maroc et l'Iran. Et je devais lui présenter des chercheurs, des universitaires, des féministes pour qu'elle fasse un travail sur le Maroc. Elle est chez moi et je la présente à Fatema Mernissi. Alors, toutes les trois, on était surveillées 24 heures sur 24. Et mon malheur, c'est que j'étais aussi attachée de cabinet chez le ministre de la Culture. Et donc, ça m'a coûté mon poste. C'est une anecdote, mais ça reflète aussi le statut de Fatema Mernissi au Maroc. Voilà, donc c'était les années 80. Zib Amir Husseini, d'ailleurs, il raconte tout ça dans son livre et il me cite dans sa préface. Voilà, pour info.
Divorce, hein, le divorce, là où elle compare, ouais. Oui, j'ai écrit un compte rendu dans le temps sur le livre.
Bonjour à tous. Donc, déjà, merci de votre intervention qui a été très instructive et très intéressante. Donc, je réagis peut-être un petit peu à chaud et en direct, mais j'ai une question pour vous. En fait, j'aimerais vraiment savoir, c'est bien sûr sans aucun jugement, en fait, quel est le besoin? Pourquoi avez-vous eu le besoin d'interroger le seul homme présent, homme blanc, présent dans la pièce, alors que la demande n'a pas été formulée par cette personne? Merci de votre intervention, hein, c'était très intéressant, il n'y a pas de souci. Mais en fait, j'aimerais juste savoir pourquoi vous avez ce besoin de pointer la personne ici présente, alors qu'on est en train de faire un travail de déconstruction, de réappropriation de la parole des femmes. Je trouve ça assez étonnant. Voilà. Merci.
Je voulais juste aussi dire quelque chose à propos de l'affiche, parce que, elle est belle sur cette affiche, mais c'est un portrait de Fatema Mernissi qui a été fait par une femme anonyme, Cécile Pralon, c'est une amie de ma sœur qui a aimé, elle a vu à la maison les photos, parce que je lui avais envoyé le diaporama, et c'est quelqu'un qui fait de la peinture, mais comme ça, quoi, pour elle. Et elle a fait ça, et moi, j'ai trouvé que c'était magnifique. Donc, j'ai choisi pour l'affiche. Mais c'est une femme tout à fait anonyme qui a fait ce portrait.
Non, merci. Avant de redonner la parole aux intervenantes, je vais peut-être vous répondre. Quel est votre nom? Benjamin. En fin de compte, c'est simple. Azeda?
Très, très. Pardon?
Dans l'ordre? C'est AZD.
Écoutez, moi, je commence très rapidement parce qu'on n'a pas le temps, mais d'ailleurs, essayer de réagir par rapport aux interrogations de Inga, dans le sens où, alors, bien évidemment, moi, j'ai beaucoup de critiques du type épistémologico-méthodologique à formuler par rapport à Fatima Mernissi, enfin, aux travaux de Fatima Mernissi que je mobilise, que j'ai lus. Après, pas tous les travaux, parce qu'elle a beaucoup aussi écrit des choses que je n'ai pas encore lues nécessairement. Je pense que la première chose, c'est que Fatima Mernissi reste dans une pensée totalement binaire. Ça, c'est ma première réaction. Fatima Mernissi reste dans une pensée qui prend à son compte la pensée de la modernité occidentale, tout en voulant aussi s'approprier de cette pensée, à mon avis. Et par exemple, quand elle parle de pouvoir, je pense qu'elle reste quand même encore largement dans le schéma weberien du pouvoir. Là aussi, je ne suis pas moi-même dans ce schéma-là, si vous voulez. Et aussi ce que j'ai cité comme parfois des essentialisations qui ça lui échappe parce qu'elle est en train en réalité alors j'ai dit que sa démarche contextualisation historicisation pour moi est une démarche anti-essentialiste. En revanche, effectivement, par exemple, dans certains de ses ouvrages, on voit elle-même tomber dans le même piège d'essentialisation parce que elle est encore très moderne, parce qu'elle est encore très binaire, parce que. Donc, et aussi, par moments, elle voudrait dire que, voilà, regardez, l'Orient, contrairement à ce que vous dites, l'Orient est plus en avance par rapport à l'Occident. Donc, elle tombe dans la dichotomie Orient-Occident au lieu d'aller vers la déconstruction. Alors, en même temps, et à ma connaissance, elle utilisait sa propre beauté. Elle était très consciente de sa beauté. D'ailleurs, on l'appelait la diva. Mais elle l'utilise, elle mobilise sa beauté pour aussi dans une optique de pouvoir, non pas pouvoir masculine, enfin voilà, mais pouvoir de effectivement pouvoir dire haut et fort ce qu'elle pense. Et là encore, ses amis m'ont raconté des épisodes vraiment fascinants pour moi dans les années, je pense début 80, là où elle montait sur la table carrément, utilisant bien évidemment de son aura, de sa voilà, de sa personne en tant que diva. Et je termine juste, je sais pas Myriam, on parle de la même exposition que j'ai, parce que j'étais invitée, mais c'était dissocié. Pardon, c'est pas toi, c'est vrai. Pardon. Ah, Myriam. Harem 2003, c'est cette exposition absolument que je suis allée voir parce qu'après il y avait une conférence. Écoute, le harem, la plupart des photos exposées concernaient le harem du Shah d'Iran au 19e siècle, à l'époque où, contrairement à une idée reçue, les femmes étaient moustachues. Et donc, il fallait être très, très corpulente, etc. Et donc, l'image qui a... Alors, les hommes qui étaient là étaient giflés par ces images-là, tétanisés. C'est ça, le harem? Parce qu'ils s'attendaient à voir les belles femmes blondes. Enfin,
des odalisques.
Elles ont vu des femmes moustachues, comme ça et ça. Et parce que c'était ça aussi à l'époque. L'esthétique, etc. Voilà, je refais ma parenthèse. Mais après, je ne sais pas ce qui est devenu, parce que notre colloque n'avait rien à voir avec cette exposition. Tu vois, donc... Où j'ai parlé justement du pouvoir des femmes iraniennes, tout au long de l'histoire, ça je me rappelle.
Dinya, par rapport à la loi salique, d'abord tu as raison de dire combien il faut introduire des nuances à l'intérieur de l'histoire de l'Europe que je connais mal. Moi, mon point de départ, on parle toujours à partir d'un lieu. Mon point de départ, c'est la Tunisie, l'histoire des femmes tunisiennes. Et j'ai observé deux choses qui m'ont révoltée. D'une part, les orientalistes, quand ils parlent de l'histoire de la femme nord-africaine, ils vont l'exclure, ils vont l'éliminer, ils vont dire qu'elle n'a pas existé. Et d'autre part, nos historiens des trois universités maghrébines aujourd'hui, en Tunisie, en Algérie et au Maroc, sont dans la tradition des temps coloniaux. il continue à dire la même chose. Donc, j'essaye de dire, attention, les histoires ne sont pas identiques. Tout en disant que toute la Méditerranée, nos aïeuls sont communes, et les femmes d'Orient et d'Occident aussi, on a besoin de construire des valeurs communes, etc. Mais un vrai dialogue va s'instaurer à partir du lieu à partir duquel on parle. Voilà. Le deuxième point concernant le pouvoir, je ne m'intéresse pas à la question du pouvoir. Pour moi, dans le pouvoir, il y a toujours beaucoup de violence. Je m'intéresse à la question de l'existence. Je suis psychologue de formation. Moi, femme, est-ce que j'existe? Qu'est-ce que je ressens dans le lien à l'autre, etc. Nos aïeules, à nous, comment elles ont vécu? Par exemple, quand je compare l'écrit de Fatima Mernissi, femme chef d'État en islam, et l'écrit de Ibn Battuta, je préfère les écrits de Ibn Battuta, parce que lui va raconter de l'intérieur la vie d'une femme, son habillement, sa façon de parler, etc. Alors que Fatima n'a pas eu le temps d'explorer en profondeur les histoires de femmes, elle va d'abord donner des fiches historiques. Donc c'est la question de l'existence des femmes, en fait. Voilà, merci.
Je vais être bref puisque le temps court. Alors je pense que tout d'abord, effectivement, ce qui doit retenir notre attention, c'est l'espace imaginaire que la pensée de Mernissi ouvre. Y compris d'ailleurs, ce qui est important, il me semble, et c'est ce que je reprendrai volontiers la réflexion de Azadé, sur le fait que plus on réifie sa pensée, et moins on peut la critiquer. Ce qui est aussi, ce qui fait que beaucoup de gens peuvent être en faveur du consensus et de la consensualisation, parce que du coup, il y a l'espace de la controverse et de la discussion se referme. Et c'est précisément ce qui bénéficie à la fois à ceux qui voudraient que Mernissi ne soit pas enseigné ou ne soit du coup pas critiqué, et ceux et celles qui voudraient en rester à la figure iconique, effectivement, de la diva, de cette femme qui, d'une certaine manière, à travers sa beauté, n'est pas censée être questionnée sur son mode de pensée. Donc ça me semble être particulièrement à l'œuvre, parce que tous les auteurs ne sont pas consensualisés de la même manière, et il y a une façon de genrer la consensualisation qui fait que les femmes qui deviennent consensuelles, en général, ça se fait toujours aux dépens de ce qu'elles pensent. Et à la limite, ce n'est plus vraiment ce qui est essentiel, on peut s'en passer. Alors ce qui me semble intéressant du coup là-dedans, ce serait d'ouvrir, vous parliez des nouveaux travaux, je trouve que c'est effectivement très important, c'est-à-dire comment est-ce qu'on la remet au travail? Comment est-ce qu'on cesse d'en faire une icône figée? Et comment est-ce que toute sa pensée est remise au travail? Les travaux contemporains ne manqueront pas de le faire, c'est à nous de les encourager, vous avez raison là-dessus. Et ce qui me semble intéressant sans doute, c'est de dépasser la notion d'œuvre, qui est une notion très européo-masculino-centrée. Hein, j'ai fait une œuvre. Mon œuvre, je me souviens d'un jeune collègue d'ailleurs qui parlait de ça au bout de deux livres. Bref, je le renvoie à l'inanité de sa pensée. Mais c'est quand même frappant, je veux dire, c'est symptomatique du fait que c'est quand même la grande affaire. Et plutôt de réfléchir, ce que vous disiez sur la transdisciplinarité, mais aussi sur la rupture dans les formes. Le fait que Mernissi ait mélangé l'analyse sociologique et le récit personnel, ça c'est quelque chose qui fait sans doute que au fond, c'est une pensée polluée. C'est une pensée qui est contaminée par d'autres genres et qui, du coup, ne peut pas prendre place dans les bibliographies de sociologie. Le prétexte, il est tout trouvé. C'est qu'elle n'écrit pas comme il faudrait. Et elle n'adopte pas la forme qui est attendue. Surtout quand on est une femme et qu'on veut se faire reconnaître, a fortiori quand on est racisée. Donc ça me semble être une perspective très intéressante. Alors donc, juste sur la pensée archipélique, je suis tout à fait d'accord sur les contenus, évidemment, que y compris quand on ne sait pas qui fait les contenus sur le net, c'est quand même la majeure partie du temps le cas. Sur la pensée archipélique, je pense que c'est, pour nous, elle est intéressante. Pour celles et ceux qui la pratiquent depuis toujours, elle est aussi une pensée qui est inscrite dans une forme de tradition. Mais de notre point de vue, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle démonte les hiérarchies. Penser de façon archipélique, c'est refuser les hiérarchies. Ces hiérarchies sont traversées par des questions de pouvoir et par des questions de genre. La pensée archipélique aussi, surtout en ce moment, puisqu'en fait elle essaie justement de revenir sur les dimensions coloniales qui l'ont réduite au silence. C'est une pensée qui a été réduite au silence. Et donc il nous reste peut-être d'abord à aller à sa rencontre et à voir ses profusions et ses déploiements. Mais à ne pas céder effectivement au travers que nous connaissons, c'est-à-dire à la fois le fait de finir par lui attribuer une forme de pouvoir qu'elle n'aurait pas ou qu'elle ne doit pas avoir, et à ne pas être aveugle aux formes de genre qu'elle reconduit.
Ok. Merci à toutes les présentes, aux intervenantes en particulier. De toute façon, on n'a pas clôturé. Le débat continue dans une heure exactement.